Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 5 mai 2026. Vous écoutez le 20e épisode de la saison 9 de Sneak On Air. Sneak On Air, la première et la seule émission 100% sneakers au monde, animée par toute l'équipe de Sneakers Empire qui met de la culture dans tes baskets. You will not be able to change the channel.
Money's gotta be the shoes.
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 You sure it's not the shoes?
Do you know? Do you know? Do you know?
Yeah, 1, 2, 1, 2.
You know how I do.
Yo, what up? This is A1, and I'm chilling on Sneak On Air, man. It's the one and only radio show 100% talking about sneakers in the world, hosted by Sneakers Empire. Every Tuesday, 8 p.m. to 9 p.m. on RBS 91.9 FM. Chill, don't sleep.
That's right.
Look, Mom, I can fly.
Yo, man, your Jordans are fucked up.
Sneak On Air. Épisode 20, saison 9. Des hommes, une idée, un concept, une énergie, du marketing. Mais qui est l'homme orchestre de la sneakers? C'est sans doute le designer. Il conceptualise, il dessine, il crée, le tout pour améliorer la performance du sportif. Alors qu'en performance rime avec élégance, nous ne pouvons pas passer à côté d'un designer phare de chez Nike, j'ai nommé Tinker Hatfield, qui vient de fêter ses 74 ans. Happy birthday Tinker, voilà le thème de notre émission. On va parler de Tinker Hatfield et de ses designs. Alors à toutes et à tous, bienvenue dans ce 20e épisode de la saison 9 de Sneak On Air, là où la culture se vit en basket. Au programme pour ce 20e épisode, notre traditionnel « Qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio ?» Tu es venu avec quelles idées, quels débats t'as envie de mener. On parlera un peu d'actu et cette fois-ci, une actu Sneakers Empire qui arrive très très vite. On parlera de l'agenda des sorties que j'ai relevé pour cette semaine et nous passerons le reste de l'émission à décortiquer les designs de notre cher Tinker Hatfield qui sans doute, on demandera autour de la table, nous a pour ma part fait plonger dans la basket. Cette émission serait rien sans tous mes acolytes ici derrière le micro. Il est dans la place, très très bien chaussé, c'est Krish est dans la place. Comment vas-tu?
Salut Alex, salut tout le monde.
Ta forme?
Ouais, c'est très bien malgré le temps dégueulasse du jour, mais ça va.
Ça va, et ouais, fallait choisir autre chose. Ce soir, on va voir après ce qu'on porte. Il est là, enfin, il est bien sûr derrière nos réseaux sociaux, mais ce soir, on a la chance, on l'a derrière le micro. Entre quelques posts, un peu de parole derrière ce micro, c'est Jaime qui est dans la place. Salut Jaime.
Salut Alex, salut à tous les auditeurs.
Tu vas bien?
Bien, merci à toi.
Ouais, très bien, très bien. Il est là. Ça fait longtemps, vous l'avez découvert dans l'émission du 14-18 de Pierre Lindemann, c'était il y a 2 ans, c'était son stagiaire, l'un sans doute le meilleur stagiaire que n'ait jamais eu RBS, c'est mon fiston, c'est Abby qui est dans la place, salut Abby.
Salut, ça va?
Ouais, et toi?
Ouais.
Content d'être là, ça fait longtemps?
Très longtemps.
Très longtemps.
D'années quasiment.
Ah ouais, t'as presque mué hein, depuis la dernière fois que t'as pris le micro.
J'ai passé le permis entre temps.
Ouais, on va pas en dire plus. Hein.
Ouais.
Voilà. Et, tu diras par où tu rentres au cas où. Très bien, allez, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec le qu'est-ce que tu portes. Qui a envie de démarrer? Tu veux démarrer bien avec ce que tu portes?
Ouais.
Allez, vrai. Vas-y, dis-nous ce que tu portes. Alors, ce
moi,
soir.
Moi, je porte les classiques Jordan 4 Rare Air que je porte depuis le début de l'année, qui sont franchement très très bien. Et avec une paire de chaussettes qui va très bien, les chaussettes Topic en bleu.
En bleu.
Très très bien.
Assorti au petit détail bleu de ta, voilà, de ta Rare Air qui a la particularité d'avoir le Jumpman en scratch, hein, c'est ça?
C'est ça. Et il y a aussi une édition spéciale où quand on enlève le scratch, il y a un changement, je ne sais plus.
Ouais,
lequel.
Exactement.
Je crois que c'est en doré ou quelque chose comme ça.
Exact, mais t'es fort. Comment tu te rappelles de ça ou t'as fait des recherches avant l'émission?
Non, je me rappelle de ça.
Oui, il y avait quelques modèles de cette édition. C'était la dernière édition Rare Air, où quand tu retires le scratch d'une jump pan au niveau de la languette, le Rare Air n'était pas écrit en blanc, mais en doré. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'était un truc un peu spécial auquel a pensé Nike? On ne sait pas, mais pour tous ceux qui ont la Rare Air Jordan 4, vérifiez. Et je crois que c'est toi, Jaime, qui l'a en Jordan 3, la Rare Air.
Oui, c'est bien ça.
Ouais, hein, le colorway, il est sympa. Hein.
Ouais, ma première Jordan 3, Rare Air. Très beau colorway, j'adore le combo.
Ah, attendez.
Ah, c'est le fameux scratch.
Ah oui, c'est le scratch qu'on entendait jusque dans le micro.
C'est ce que Abby fait.
Voilà, donc il vérifie.
Non,
c'est
je voulais vérifier s'il y avait bien écrit sur les deux côtés de du scratch Rare Air, mais oui, dans ma tête, il y avait un côté où c'était écrit Jordan, mais dans les deux côtés, c'est écrit Rare Air en blanc. Ouais.
Et moi, je t'avais proposé de porter ton Jumpman sur un des pieds dans l'autre sens.
Ouais, dans l'autre sens.
Et t'as pas voulu.
Non.
Pourquoi?
Bah, je sais pas, ça fait. Il faut regarder.
Ah, mais c'est le petit détail,
mais
moi, je trouve.
Maintenant, la languette est souvent cachée par les pantalons qui sont.
Les baggy.
Les baggies, exactement.
Exactement. Merci, Abby. On te redonnera la parole tout à l'heure. Krish, je crois que t'es venu avec une superbe paire aujourd'hui.
Mais est-ce qu'on gagne du temps?
Pourquoi?
Bah, comme on a la même, fais-la toi. Tu sais mieux écrire. Alors... Parce qu'on a la même paire. C'est rare d'avoir la même paire.
C'est rare. C'est pas une rare.
Alors,
mais
qu'est-ce qu'on porte, Alex?
Qu'est-ce qu'on porte? Eh ben, on a la chance de pouvoir porter un design de Tinker Hatfield.
Exactement.
D'ailleurs, la 4 l'est aussi. On porte avec Krish la Jordan 3 Levi's Black.
Exactement.
Denim.
Ouais.
Qui a la particularité d'avoir en fait cette basket est en full cuir noir, donc plutôt avantageuse pour le temps pluvieux qu'on avait. Mais tout ce que vous pouvez imaginer de la Jordan 3 où on avait du cimène, de l'Elephant Print en couleur grise, et ben ça a été remplacé par du denim gris jusqu'au... Comment on appelle le Nike Air? Le heel tab?
C'est ça.
Jusqu'au heel tab en jeans, et d'ailleurs quand je l'ai eu, je pensais qu'il était beaucoup plus souple, et il est assez rigide hein, sur la paire.
Ouais, c'est très ressemblant à n'importe quel Jordan 3 finalement,
ouais.
Même si le matériau change légèrement, mais finalement la rigidité est la même.
Vraiment, la rigidité est la même, et j'avoue, hein, j'ai copié, parce que j'avais pas mal de doutes sur les photos, je savais pas, et c'est quand j'ai vu Krish la porter que je me suis dit, waouh, en fait, elle tue quoi.
Ouais, la qualité du cuir est vraiment... vraiment intéressant.
Vraiment, ouais, et elle fait moins monochrome que la denim qu'ils avaient sorti.
Bah c'est ce qui me dérangeait un peu, c'est ce côté trop même matière, trop même matériau et trop même couleur sur toute la paire.
Ouais.
Il n'y avait pas assez de contraste.
Ouais, complètement. Alors que j'ai vu des gens la custom en usant un peu le jeans à certains endroits et ça rendait pas mal.
Ouais, mais j'aurais pas osé le faire.
J'allais dire exactement la même chose, jamais j'aurais osé. Et moi je pense que j'ai été un petit peu poussé par les codes promo qu'on retrouve là avec les French Days et etc. Magnifique paire avec une belle boîte Levi's.
Ouais.
Et surtout moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le petit tag qui est fourni toujours avec une Jordan 3, où là on a un côté avec le Jumpman sur une partie comme à l'arrière des jeans Levi's, et de l'autre côté on a le logo Levi's sur la partie Nike. C'est assez bien, c'est assez réussi.
C'est exactement ça.
On en a bien parlé. Très
ça
bon
suffit,
choix, Krish.
Ouais, ouais.
Je crois que c'est la première fois qu'on a la même paire.
C'est oui, en 9 ans de.
Ouais.
En 9 ans d'émission, ouais, je crois.
Ça m'était.
Calcul de probabilité.
Oui, et ça m'était arrivé une ou deux fois à l'époque avec Sam, qu'on embrasse, mais avec Krish, jamais. Et toi, Jaime, comment es-tu venu chausser?
Alors, aujourd'hui, j'ai une paire d'Adidas, la Adizero Boston 12. C'est ma paire de running.
Ouais.
J'ai vu le temps, donc je vais pas porter mes Air Max One. J'en ai. Qu'une seule en cuir, mais elle est un peu défoncée. Donc voilà, Adizero d'Adidas.
Ouais, qu'est-ce qui t'a fait acheter ce modèle? Je te vois rarement.
Très rarement, ouais. Non, je crois que j'ai 3 paires d'Adidas. Cela parce qu'elle était disponible directement. Bref, j'ai pas cherché à comprendre. Et
tu l'avais prise pour courir à la base?
Ouais, non, c'est vraiment ma paire de running. C'est ma paire de running. Peut-être un petit hommage au marathonien Rockerman récemment. Non, donc voilà, paire de running achetée sur Vinted parce que j'avais besoin d'une paire rapidement pour courir.
Et alors, la performance?
La performance.
Allez, alors, on peut passer à l'actu si tu veux.
Est-ce que le coureur est assidu? Non, mais il court.
Mais il court. C'est un début.
L'important, c'est de courir.
Exactement. Exactement.
Ah, je fais une bonne heure, hein, ça tient bien.
Ouais. C'est pas mal déjà.
C'est très bien.
Pour une première pour des premières sorties, une heure.
Non, ça fait un moment que je l'ai, mais quand je cours, ouais, c'est au moins une heure.
Ouais.
Ouais, c'est cool.
10 bornes
peut-être un peu plus.
Oh,
ouais, je pense que je dois faire 12-13.
Non, mais mec, il te manque plus que la plaque carbone et tu vas. Tu vas être notre gazelle. Ouais, ben voilà. La semaine dernière, c'était hyper intéressant. On a parlé du running, du record du marathon, de l'évolution du running et que ça bouge pas mal.
Le saut pourra lui faire tester toutes les paires de running qui sortent chez Adidas et Nike.
Hein ? N'est-ce pas, Pauline ? Et voilà, on l'embrasse. Allez, et ben justement, on peut faire appel aux anciens, on peut faire appel à nos invités. C'est l'actu de la semaine, l'actu sneakers dont on vous parle. Malheureusement, mardi prochain, on fera pas d'émission parce que le samedi 16 mai, à partir de 15h, on vous prépare une émission spéciale 10 ans de Sneakers Empire. Comme nos collègues d'Herbès le disent, bah ouais, nous chez Sneakers Empire, nous disons les fêtes pendant un an. C'est l'année des 10 ans. Ça a commencé le 29 mars, et ben on continue et on vous propose une émission spéciale où vous êtes tous invités à passer devant la vitrine derrière la tram Langstrasse Grand Rue pour venir faire un petit coucou, peut-être parler quelques secondes au micro. On a prévu de vous passer des bons sons avec DJ Stan Smith qui était là lors de nos premiers apéros, qui va mixer pour nous, qui nous fera peut-être aussi un peu le tapis musical. On aura l'occasion d'interviewer un petit peu tous les chroniqueurs, tous les gens qui sont passés à la radio. Bah juste pour parler de Sneakers Empire, sera peut-être un peu égocentré, on va faire le zoom sur les 10 ans de l'assaut, nos événements, les événements marquants, les émissions qu'on a aimées, les invités dont on se rappelle, et puis aussi fêter ce lien d'amitié qui est né au fil de ces 10 ans avec toutes les personnes qui sont souvent là le mardi derrière le micro. Vous voulez rajouter un truc sur les 10 ans ?
Ou derrière la vitre maintenant.
Ou derrière la vitrine, ouais.
Non, mais effectivement, venez nombreux, nombreuses... Peu importe comment vous nous avez connus, peu importe si vous êtes venus à nos événements ou pas, mais si vous avez l'occasion de venir nous faire un petit coucou et passer la tête derrière le micro, avec plaisir.
Voilà, en basket, pas de ballerine, évidemment.
Sinon, tu rentres pas.
Sinon, tu rentres pas, et ça...
Et pas de panda.
Pas de panda.
Ouais, ah, ça commence à être dur, hein, pas de panda.
C'est dur. Il y en a un peu moins, hein, dans les rues. Ça perdure.
Écoute, j'ai passé le week-end avec une bande d'amis, famille, et dans le Grou, il y avait deux pandas.
Non.
Ouais. Deux pandas sur 12, sur 15, ça faisait beaucoup.
Dont Manu, non ?
Non, tu rigoles.
Manu, je crois pas qu'il ait une seule dunk low. Je pense pas qu'il en ait. On embrasse Manu, on embrasse peut-être Denis, va nous rejoindre. On avait hâte d'avoir son petit poème, et si c'est pas là, ce sera samedi prochain ou le mardi suivant. Allez, on parle des sorties de la semaine. J'ai quelques jours de retard parce que c'est sorti en début de semaine, fin de la semaine dernière.
Bah,
c'était le 2 mai. Et franchement, autant les premiers modèles, j'avais pas trop accroché. Y a un modèle blanc qui est sorti, qui est plutôt une réplique d'une Samba ou d'une Gazelle, sur un mode estival avec une semelle très proche des espadrilles. Et ben Clot refait ça en collaboration avec Adidas. Ça coûte 150 balles. Et là, c'est ouais, une ode, un petit rappel à la Copa Mondiale sur une version totalement estivale. Donc on a une semelle de contact gomme avec cette semelle intermédiaire vraiment qui est tressée exactement comme une espadrille. Souvent on dit qu'on peut puer des pieds dans l'espadrille, donc il faut peut-être le porter avec des chaussettes. Et on va retrouver le upper de la Mondiale, les trois bandes, elles sont aussi en matière tissée, et là on retrouve vraiment cette languette mythique de la Mondiale qui revient sur les lacets pour protéger justement le lassage et pour avoir une belle partie du pied pour pouvoir taper dans la balle et lui donner de l'effet. On retrouve quelques piqûres et écritures à l'avant de la chaussure. Et autant l'année dernière, j'avais pas du tout accroché sur ces modèles, mais là, je trouve vraiment qu'il y a un petit truc avec cette collaboration entre Clot et Adidas sur la Mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez, un petit peu, les amis ?
Ben, le timing est bon, puisqu'on est à quelques semaines du lancement de la Coupe du Monde. Donc forcément, cette chaussure fait référence à la fameuse paire de chaussures de foot, la Copa Mondiale. avec cette languette qu'on a, pour les anciens en tout cas, triturée pour qu'elle reste bien plaquée sur la chaussure, avec le lacet qui passait soit en dessous, soit au-dessus, selon le type de footballeur que tu étais. Mais en tout cas, ouais, ça ressemble vraiment à Clot. C'est cool d'avoir mis les codes de la Copa Mondiale. Pas très fan de la semelle qui fait ce côté un peu espadrille. J'aurais peut-être tenté autre chose. Mais ça reste Edison Chen, ça reste Clot. C'est propre. 150 euros, voilà.
Ouais, c'est presque raisonnable. Hein.
Ouais, ça va. J'aurais difficilement mis plus, mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est mignon.
À tes souhaits.
C'est quoi, c'est une semelle en plastique ou une autre matière?
En toile tissée.
Toile tissée, ouais, comme une espadrille.
Espadrille.
C'est espadrille, c'est vraiment le principe.
Mais
de...
ça fait vraiment chaussure qu'on met chez soi pour être tranquille, pour balader son chien, non, alors, ou des choses comme ça.
Ouais, je pense que là, il y a quand même un revêtement en dessous.
Tu
en
balades
gomme.
Ton chien bizarrement, mec, hein, je te le dis. Ben nous, très, très bizarre.
Quoi, moi, je vais en crocs, en... Ouais, la première très, très que bizarre. J'ai. Hein.
On fait avec ce qu'on a, quoi.
Bah ouais,
c'est... Et oui. Et oui. Et toi, Jaime, qu'est-ce que t'en penses de cette...
Pas du tout client de la paire. Après, voilà, il y a un twist original, comme dit le texte. J'aime bien le cuir gravé avec le logo de Clot.
Ouais.
Ça rend bien, je trouve. Mais non, pas client. Je n'étais pas du tout Copa Mondial. Moi, je suis plutôt le second sujet. Je suis plutôt Mercurial parce que j'étais stylé sur le terrain. Moi, pour mettre des petits ponts.
Ah, pas mal, bah, tu vas nous expliquer. Et en plus, ouais, c'est marrant, c'était pas délibéré, mais au final, ça va être hyper intéressant. On reste dans cette tendance foot, parce que la deuxième dont j'ai envie de vous parler, là, j'ai plus que quelques heures de retard, parce qu'elle est sortie, elle était annoncée hein, pour le 5-5, donc aujourd'hui, au prix de 300 euros. Il y avait deux couleurs qui sont sorties, quasiment trois, je vais vous les décrire. C'est la collaboration entre Pata Nike. Ouais, collaboration entre Pata et Nike au travers de la Mercurial Vapor 16 Elite couleur chrome, et on avait aussi la couleur bleue, exactement comme la Pata Waves qui était sortie. Donc c'est une collab avec Pata sur une Mercurial de foot, hein, vraiment pour jouer au foot. Et là on va retrouver sur une semelle de contact translucide avec des crampons qui sont plutôt des lames, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit.
Exactement, lame, lamelle...
Ouais, c'est un peu la nouvelle tendance hein, des crampons. Et le premier modèle, la chrome que je vous ai choisi, a un pied avec la Waves, donc les vagues de chez Pata, qui va être grise sur un reste de upper qui est très argenté. Et on a l'autre pied où elle va être blanche. Et la deuxième paire qu'on pouvait avoir sur sneakers, là, elles étaient du même colorway sur les deux pieds. Bleu, ouais, le bleu qui était sorti sur la Air Max One. Personnellement, j'aurais presque envie d'avoir un niveau en foot et pouvoir chausser ce type de paire.
Je suis d'accord avec toi.
J'ai envie de reprendre le foot.
Ah ouais, non, franchement.
Nous, on n'avait pas ça à notre époque. Hein. On avait des trucs.
Non, mais la R9, là, tu sais.
Ouais. Non, il y avait des trucs sympas. Ouais, qui ressemblaient d'ailleurs à une 97.
Oui, exactement.
Qui avait la 97. Des, 97. Mais oui, là, tu vois, ce genre de paire.
Incroyable.
Ouais, c'est ouf.
Quand j'ai vu Désiré Doué au match aller la porter, j'ai kiffé. Ah ouais.
Au match aller de Champions la semaine dernière.
Ouais, de Champions. Désiré Doué l'a porté pour la victoire 5-4 du PSG. Et je sais pas si vous avez vu passer ça. L'Inter de Milan a gagné le titre de
ce week-end. Ouais, c'est ça.
Thuram l'a porté aussi. Et il a fait une belle petite photo pour la victoire. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est un rappel en fait de la fameuse photo mythique de Kobe Bryant. Il a gagné un titre du coup d'NBA.
Je l'ai vu.
Dans le vestiaire, tête baissée. Ouais, je sais pas, vous avez vu avec un blazer avec plein de logos, plein de patchs. Et il a fait exactement la même posture. Elle est très belle la photo.
Référence.
Regardez ça sur l'Instagram de Thuram.
Le fils.
Et du coup, elle a paire incroyable.
Ouais, incroyable.
Comme dit Cri, j'aimerais reprendre le foot.
On sait que vos auditeurs sont vieux, mais je pense qu'ils sont assez intelligents pour savoir que c'est le fils et pas le père.
Peut-être.
Pas, mec. Calme-toi. Pourquoi t'es insolent comme ça?
Tu reviendras
c'est
plus.
C'est fou, ça.
Tes frères et sœurs sont beaucoup plus polis. Hein.
Grave.
Beaucoup plus polis. Non, et alors vraiment, déjà, ce que je trouve intéressant, on a parlé de la Copa Mondiale tout à l'heure, et là, on parle de la Mercurial. On voit vraiment cette évolution technique au niveau du crampon et de la chaussure de foot. Vous qui vous y connaissiez mieux en foot que moi, sur la Mercurial, on est plutôt sur du fly knit. Hein. C'est un upper tissé.
Ouais, sur le dessus, on est sur du fly knit. Après, effectivement, les vaguelettes, là, j'arrive pas à savoir quel matériau ils ont mis dessus. Mais je pense que ça doit être un truc de nouveau synthétique, tu vois.
Ouais, thermocollé en plus, ça a l'air.
Thermocollé, pas trop lourd, pour pas justement alourdir la paire. Mais ouais, c'est très beau.
Ouais, moi franchement j'aime bien. Mais moi je trouve que c'est ce qui manque au foot. C'est au basket, beaucoup plus avant, mais on avait toute cette culture de la paire avec les Jordan, tout ça. Au foot, beaucoup moins. On a des crampons. Et avec les crampons TN que Mbappé avait porté il y a de ça quelques temps, c'est une des seules paires un peu comme ça, collab de chez Nike. Alors je pense que ça serait un vrai truc à travailler en faisant des modèles.
Mais c'est, encore une fois, c'est culturel. Dans le sens où la paire de basket, tu peux la mettre dans la rue. La paire de foot, tu peux pas la mettre dans la rue.
Ah oui.
Donc forcément les gens, les designers vont moins se casser la tête, tu vois, à se dire bon, ok, elle est faite pour le basket, mais à quoi, enfin, où est-ce que je pourrais l'utiliser, tu vois, ou comment je pourrais l'utiliser différemment. Donc tu peux avoir cette réflexion sur toutes les paires maintenant, sur le running, sur le basketball, sur le tennis, à la limite, tu vois, mais là sur une paire de foot, ça reste compliqué, quoi.
C'est, ouais.
Ouais, même les paires de baskets, si tu les regardes dans la rue, je suis pas sûr que tu vas mettre une paire de baskets toute verte fluo.
Regarde ce que t'as au pied.
Ah oui, c'est une paire de baskets. Voilà. Mais maintenant, tu regardes les paires des les LeBron qui sont sortis.
Si, t'en vois
ça
encore.
Ça se porte. Hein.
Ah, ouais, ça se porte, mais ça se porte beaucoup moins qu'une paire de Jordan ou une paire de.
C'est sûr.
C'est clair. Tu veux réagir sur la technique de la chaussure, la techno ?
Non.
Non ?
On peut passer.
On peut passer. Ouais, je voulais peut-être. J'ai une dernière question sur la paire. Si vous l'imaginiez avec un sole swap, vous metteriez une semelle de quoi en dessous ?
Sur cette paire-là ?
Ouais.
Air Max 1.
Et c'est ce que j'ai à dire, la même chose.
C'est ouais, mais alors t'achètes l'Air Max 1,
bah,
quoi.
C'est la Wave.
Air Max 1, ouais.
Je vois pas une autre semelle, quoi.
Mais ouais, ouais, je
pense 97,
que...
mec.
97.
Tu resterais dans la colorie chrome.
Une DN 8.
Non, ça voilà.
Tout de suite, tu pars dans la bulle. Mais... Non, non, mais effectivement, oui, je suis d'accord avec toi, Alex. Eh ben oui, on achète la pâte à une.
Ouais,
pas
l'Air
Max 1, pas ça d'ailleurs.
Moi, je mettrais la.
Mais ouais, je sais pas, ouais. Ouais, je pense que c'est ce qui va le mieux finalement.
Ouais, je me demande si ça va pas bientôt popper sur les réseaux de 3 seuls swaps.
Ou alors une paire de. Une semelle de TN.
Ouais. Ouais.
À la limite, une semelle de TN, ça pourrait être pas mal.
Ça pourrait être pas mal. Surtout avec une bulle qui reprend la couleur
ouais, c'est ça.
D'un des pieds. Mais alors, par contre, je pense qu'en termes techniques, c'est pas du tout aussi facile de séparer le upper de la semelle. Hein, parce que là, on est sur une autre techno, quoi. Ouais, vraiment très, très, très chouette. Et mon dernier choix, avant qu'on passe le reste de l'émission à parler de Tinker Hatfield, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé une New Balance 990 V4 avec un colorway ouais, vraiment qui tape. J'aime beaucoup, c'est la Tangerine, ça sort le 705, ça coûte quand même le prix de 240€, c'est les tarifs des made in USA. Et là on a une semelle assez flashy de contact et intermédiaire orange avec un upper qui a l'air de super qualité sur du beige, du orange un petit peu plus mat, un peu plus pastel sur les parties du mesh que laisse apparaître la paire. Et je trouve vraiment le colorway et le design très très réussi de cette New Balance, vraiment avec cette tendance très estivale, je trouve que c'est très réussi.
Bah, ça peut un peu être une paire d'Halloween, hein, parce que chaque année tu mets ta paire de. Bah, c'est orange. Hein.
C'est orange, mais c'est un orange plus mat que l'orange
ouais,
Halloween.
Je vois ce que tu veux dire. Franchement, c'est joli. C'est pas une paire qu'on peut sortir tous les jours, mais c'est très sympa.
Oui, par ce temps-là, c'est un petit peu compliqué.
Même, bah, c'est une bonne paire d'été, hein, puisque l'orange ça fait penser.
Ça cartonne.
Ou d'automne, les deux ça marche.
Entre les deux, ça débarque le 7 mai sur newbalance.fr. Moi je trouve ça très réussi, franchement c'est toujours juste, c'est propre, c'est efficace. Messieurs ?
Ouais ouais, je pense que c'est ça ressemble à Newbie, hein. C'est ce que fait un Newbie, tu vois. La couleur elle est audacieuse, c'est intéressant de sortir ça maintenant. On se plaint toujours de sortir des couleurs très estivales en hiver et à l'inverse, tu vois, alors que là c'est pas du tout le cas. Donc non, c'est très bien. Après 240€, effectivement, ça.
Ça reste un peu cher. Ça peut se retrouver en outlet et il y avait les French Day. En fait, on a fait une émission là-dessus, mais il y a tout le temps des soldes. J'ai que des notifications, des promos. Pardon. Oui, les soldes c'est que deux fois dans l'année. Il y a que de la promo.
Ben, je pense que tout le monde paye un peu. Cette logique de il faut absolument sortir un maximum de collections sur une année ou sur un trimestre. Et à un moment ou à un autre, de l'autre côté, t'as les prix qui flambent, t'as le pouvoir d'achat qui fait un peu la gueule. Donc on est dans un bouchon, tu vois, où bah, t'as trop de paires, t'as trop de stock, t'as des gens qui achètent moins ou qui consomment différemment, donc il faut péter les prix, quoi. Mais c'est intéressant parce que finalement... pour en discuter avec des revendeurs, donc wholesalers type Foot Corner, Foot Locker, Courir, etc., etc. Tout le monde est en galère un peu. Tout le monde est en difficulté. Donc, mais ça m'étonne pas.
Ouais, après, ouais, ça reste. Enfin, l'économie est en difficulté. Et nous, on le voit par le prisme de la sneakers et qui déroge pas aux règles de ce qu'on subit.
Les outlets se portent bien, par contre.
Les outlets cartonnent.
Carrément.
Ouais. Après, ouais, on garde notre nostalgie, surtout avec Manu, de l'outlet de tout début, où là, tu trouvais des pépites.
Ouais,
maintenant, c'est devenu un vrai canal de distribution en soi. Hein.
Oui, mais tu peux quand même tomber sur des trucs très intéressants, tu vois. Là, ils avaient pareil un stock incalculable de du petit sac à main Nike en collaboration avec Jacques Muse.
Ah ouais.
Ouais.
En outlet.
Ouais, en outlet. Ils avaient un stock de fou. Ouais. Et tu sais le sac.
La virgule. Je trouve assez réussi comme sac.
C'était très bien, mais du coup, c'est cool parce que finalement, ça coûtait une blinde. Pour le consommateur final, trouver ce genre de sac en outlet, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, en termes d'image. Trouver Jacques Muse, tu vois, en outlet, ça, c'est autre chose, quoi.
Ouais, et le petit sac à main, je crois que Adidas aussi en a fait un en
trefoil, exactement.
Ouais, très réussi.
Très,
hein.
Très propre, ouais. Très bien.
Franchement, très réussi. Ça vous va ? Ah ouais, Ikrish, je sais que t'as voyagé ce week-end dans un pays européen, du sud de l'Europe. T'avais pas cette mission, mais ça t'a peut-être marqué. Parce que, est-ce que t'as vu des tendances basket différentes ? On peut dire que t'étais en Espagne.
Oui, on peut dire que j'étais en Espagne, on peut dire que j'étais à Barcelone. On peut dire surtout que j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Adidas.
Ouais.
Surtout par les filles, tu vois. Donc, les survêtements, trois bandes, tu les vois, mais vraiment partout. Donc, j'ai vu énormément d'Adidas. Pareil aux pieds. Je pense que Samba, Gazelle, etc., etc., c'est encore d'actualité là-bas, c'est encore là. Et pour les mecs, à l'inverse, très Nike. Et très plutôt orienté running, quoi. Très
running,
dribble, tu vois. J'ai pas vu de Jordan, j'ai vu beaucoup TN, DN, Air Max.
Et quand tu dis running, c'est quoi? C'est des marques comme On, Oka qui
oui, mais je pense que tu vois, ces gens-là, c'était plutôt des touristes,
ouais.
Puisque c'est une ville quand même hyper touristique. Mais après, les jeunes plutôt espagnols, barcelonais. Quand je parle de running, je parle plutôt de cette tendance TN, EDN, etc., etc., qui pour moi du running côté Nike, quoi. Mais ouais, c'est assez. Enfin, la place d'Adidas chez les filles, elle est incroyable en ce moment, quoi.
Ouais, ça a l'air d'avoir marqué,
fou,
quoi.
Ouais, vraiment, c'est fou. C'est fou.
Bon, moi je vois
à Strasbourg aussi. Hein. C'est impressionnant.
Ouais, moi, j'aime bien sonder mes étudiants, tu vois. Et quand on a préparé l'émission On, le jour même, je vois trois gars passer devant mon bureau en On. C'était vraiment des on the running qui portaient lifestyle. Et le gars est allé l'acheter pour le lifestyle. Et en fait, il m'a dit non, j'ai pris deux paires. J'ai pris une paire pour courir et une autre pour ma vie de tous les jours. Et c'est quasiment le même modèle en on. Bon, ça m'étonnait un peu plus, tu vois. Mais ça parle beaucoup, beaucoup aux jeunes. Il a relevé ce que Jacques relève, que la techno lui parle en la voyant. Ça nous fera une belle transition pour parler de Tinker Hatfield tout à l'heure, mais c'est vrai, et côté féminin, ouais, je le trouve très porté Adidas aussi ici, mais je pense que c'est encore plus flagrant en Espagne.
Ouais, complètement.
Ça vous va, messieurs ?
Allez,
et ben je vous propose de parler d'un des, le mot est un peu fort, mais peut-être d'un des dieux du design, d'un des dieux d'Adidas, et sans doute, à mon sens,
Nike.
Ouais, j'ai dit de là.
T'as dit Adidas.
Oui, parce que tu sais pourquoi j'ai fait ce lapsus ?
Pourquoi ?
En cherchant d'autres dieux du design, j'ai pensé à Jacques Chassin.
Forcément.
Et donc j'ai dit Adidas. Oui. Voilà, on t'embrasse très fort, Jacques, et je sais que tu reviens bientôt dans l'émission et peut-être même samedi s'il est à Strasbourg. Et ben voilà, c'était l'anniversaire de Tinker Hatfield le 30 avril. Il est né en 1952. Il fait aujourd'hui 74 ans. Franchement, sur les photos, je trouve qu'il vieillit plutôt bien, hein, le gars. Plutôt pas mal, mais surtout, on peut le qualifier du génie de l'Oregon. Tinker Hatfield n'était pas forcément destiné à dessiner des chaussures au départ, parce que pourquoi ? Il devait normalement construire des immeubles. C'était bien sûr un athlète de haut niveau de l'université de Oregon. Il était, vous savez dans quel sport il était spécialisé, Tinker ?
Tennis ?
Non.
Saut à la perche.
Saut à la perche, faut que tu bosses ton script, mec.
J'essaie de deviner.
Et devine qui a été son coach, un certain Bill Bowerman, le cofondateur.
Du Plantis.
Le cofondateur de Bill Bowerman. Et ben, c'est après une blessure qui va stopper sa carrière sportive et il va décrocher un diplôme d'architecture. Il rentre chez Nike et rejoint la marque en 1981 en tant qu'architecte de l'entreprise pour concevoir des bureaux et des showrooms. C'est vraiment l'espace de travail dans lequel il travaillait. Et c'est qu'en 1985 qu'il va basculer vers le design produit, apportant une version architecturale révolutionnaire. Le reste, je le garde sous le coude parce que c'est un peu la transition que j'ai envie de faire. Je vous demanderai tout à l'heure, les gars, pour vous, qu'est-ce que tu retiens de Tinker, quel est le modèle, etc. Et en fait, il y en a plus de 30. Si vous cliquez sur le lien que je vous ai envoyé dans votre story, on va pouvoir y revenir. Mais on va tout de suite faire cette transition. C'est 1985, il démarre, et 87, c'est la première révolution chez Nike de l'ère visible. Il s'agit de quoi ? Vous voulez raconter un petit peu, les gars ? Que je fasse pas le monologue ?
Oui, enfin, c'est oui, on peut raconter, mais effectivement, Tinker Hatfield va s'inspirer du Centre Pompidou à Paris. Donc, pour ceux qui connaissent Paris et qui ont déjà vu le Centre Pompidou à côté de Châtelet, la particularité de ce bâtiment, c'est que on a l'impression d'avoir des vannes d'aération qui sont à l'extérieur du bâtiment plutôt qu'à l'intérieur. Et donc, en fait, sur ce bâtiment, tout ce qu'on cache d'habitude à l'intérieur, les designers du Centre Pompidou ont mis toutes ces vannes-là et toutes ces choses qu'on cache d'habitude à l'extérieur. Et donc, c'est en voyant ça qu'il a eu cette vision de se dire, bah, en fait, nous, on a une technologie aussi qu'on a l'habitude de cacher, qui est la technologie R, donc un système de semelle R, et il a décidé finalement de rendre visible cette bulle d'air avec des modèles iconiques qui sont la Air Max 1 et aussi la BW qu'on appelle Big Window. Et donc pour moi, je parle de ces deux modèles là parce que c'est vraiment les deux modèles qui me font penser à cette révolution R visible, tu vois. Et au final, ben, tout s'est construit autour de ça. Parce qu'aujourd'hui, mis à part les modèles de running, type Zoom, ce genre de choses, et ben, je pense qu'une grande majorité des produits Nike sont avec une semelle visible Air, quoi. Donc c'est pour moi à la fois une révolution, c'est un vrai... Je trouve que c'est assez incroyable finalement d'avoir une idée, tu vois, aussi simpliste, mais qui a révolutionné l'industrie de cette manière-là, quoi. C'est ouf.
Ouais, et en plus, après je te fais réagir Jaime, parce que t'es quand même très Air Max One, hein. En plus, le premier prototype, d'ailleurs ils l'ont ressorti là en l'appelant la 86. Ouais, la 86.
Mais il y avait avant ça le croquis, l'Air Max 0, tu sais, qui avait été teasé, et là ils l'ont ressorti, quoi. Ça fait un flop, hein.
Ça, ouais, je l'avais commandé en 49, parce qu'ils s'étaient trompés dans les tailles, mec. en fait, ils avaient mis des tailles femmes, sans préciser que c'est des tailles femmes, et je crois qu'il y a une pointure et demie ou deux de pointures de différence. Et donc, bah, je cliquais ma taille, et je suis tombé, je crois, sur un 47,5, une pointure et demie au-dessus de moi, j'ai jamais pu la porter. Mais franchement, la Air Max 0, je regrette un peu. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de storytelling, hein, genre, ah, c'était le premier prototype, c'est ça. Mais le vrai premier prototype de la Air Max 1 avait une bulle beaucoup plus grosse que la Big Bubble, qui est ressortie, hein, je crois que c'était il y a 2-3 ans, un truc comme ça.
C'est ça.
Et la plupart des techniciens de chez Nike avaient un a priori plutôt négatif là-dessus, en pensant que cette Big Bubble allait complètement craquer. Surtout que Sacré, je crois pas que tu l'aies dit, c'était un modèle de running qui était plutôt destiné à des poids, à des personnes ayant une forte corpulence. Donc ça a tout de suite fait flipper. Écoute, ils ont insisté, ils ont réduit la taille de la bulle pour pouvoir sans doute renforcer sa protection et le fait qu'elle craque pas. Et c'est le début de cette révolution de bulles visibles. Et la première bulle a été introduite dans une Tailwind, je crois en 1984, c'était 2-3 ans juste avant. C'est Frank Rudy, hein, si je dis pas de bêtises, qui a inventé la bulle d'air, qui était un ancien ingénieur de la NASA, et c'est lui qui a encapsulé l'air. Je sais pas si vous vous rappelez de cette anecdote d'Eric Arlen, qui nous disait que les bulles d'air étaient toujours produites aux États-Unis, et que le seul moyen de vérifier si c'était une bulle d'air vraie ou fake, c'était de prélever l'air et de le faire analyser pour savoir s'il était de la bonne composition.
Ça fait cher
le prélèvement.
Ça fait cher le prélèvement, quoi. Enfin, oui.
Voilà, et Krish t'a très bien expliqué, bah en fait l'idée de Tinker c'était de rendre visible la technologie comme celle des fluides de gestion du centre Pompidou en la rendant visible. Alors, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi cette Air Max One avec cette première bulle d'air?
C'est le moment où tout bascule, je pompe le texte. Non, pour moi c'est la paire, hein. C'est la paire de sneakers ultime. Si tu regardes bien, quand on parle sneakers dans les bouquins ou autres, cette paire, elle est toujours représentée. Je trouve que le design de la paire, c'est un peu le totem de la basket. Voilà, moi, toutes les baskets, quand c'est pas mono sujet, hein, évidemment, quand on a un book sneakers, la Air Max One, elle est toujours là, toujours bien représentée. Donc ouais, c'est ma paire préférée. Krish parlait derrière de la BW, je parle de la 90 qui est pas mal aussi, ouais. Et la R180. J'étais vraiment surpris de ce modèle-là, un confort incroyable.
Incroyable,
la R180, j'étais vraiment surpris.
Ouais, avec une bulle d'air qui est différente.
Oui, un peu différente.
Tu vois, un peu différente que sur la
elle
sur
touche le sol, hein, la
bulle d'air. Oui, exactement, j'allais le dire, mais j'étais pas sûr si elle touche le sol, mais je crois que oui. Alors qu'au final, sur les autres, finalement, la bulle d'air, elle se ressemble, tu vois. Elles sont plus ou moins grosses, plus ou moins placées, un peu plus vers l'avant, mais finalement,
visible.
Ouais, c'est visible et c'est presque pareil. La R180, elle est quand même encore une fois particulière, quoi.
Ouais, très différente. Alors, t'as cité la Air Max One, la BW Big Window, la 90. On enchaîne avec une 95 qui est en fait l'évolution de la taille de la bulle. Hein. On est parti au début du talon pour arriver vraiment jusqu'à une bulle pour l'ensemble du pied. Et dans la 97, c'est le cas. Et après, on a eu un peu des tentatives un peu cheloues, des 360, 270.
Ouais, mais je pense qu'ils se sont dit, vas-y, on tient un truc, effectivement, on va montrer la bulle d'air de plus en plus, jusqu'à voir que ça,
ouais.
Sur certaines paires.
À la fin, c'était une chambre à air transparente.
Exactement.
Qui faisait le tour de ton pied, quoi.
Comment elle s'appelait cette
paire?
Il n'y
a pas une paire où c'est, où c'est camo avec une bulle d'air en bas comme semelle.
Bah c'était ça, c'était la
97 camo.
Non,
les 270 et 360, c'est ça.
La peut-être. Paire qu'Isaac voulait quand il était petit.
Mais je pense qu'il y a un moment où ils sont tombés sur tu vois ce truc de qu'est-ce qu'on fait de la bulle, quoi. Comment on la montre, comment on l'exploite. Et je pense que des fois ils sont encore là-dedans avec la DN par exemple, tu vois, où c'est très présent. Mais ça y est, en fait, il faut juste, les gars, trouver un autre truc, quoi, tu vois, laisser ça à Tinker, il a fait le job. Maintenant, réfléchissez, quoi, tu vois, vous allez trouver, c'est sûr. Hein.
C'est ça, et aujourd'hui, est-ce que tu peux me citer une paire performance, par exemple en running où il y a encore de l'air? C'est plus le cas, on est sur...
Oui, on est aujourd'hui sur de l'EV1, hein. C'est ce matériau caoutchouteux là que tout le monde utilise. Et qui, je pense, est plus simple à travailler en termes de maintien, parce que finalement l'air ça reste hyper confort comme le boost, mais je pense qu'à un moment ou un autre, pour gagner en maintien, je suis pas sûr que à travailler uniquement sur de l'air, ça facilite les choses.
Ouais, et aujourd'hui ils ont développé du zoom, de l'EVA, et c'est aussi repris dans les chaussures de b-ball et dans pas mal d'autres sports.
On parlait de la Air Vapor Max 360.
Ah ouais,
Vapor
Max, c'est la kiffe toujours.
T'aimes bien ça?
Ah ouais,
jamais
porté
ça. Peut-être pas le temps.
On est vraiment sur une chambre à air. Hein.
Ouais. J'ai bien aimé la com, par contre.
Des bulles. Super, ouais. Moi, je parlais vraiment un peu comme une tubular, tu vois. Il y avait une Air Max 360, je crois. Elle était noire avec.
Oui, je vois.
Et des fois, une décoloration couleur de la bulle.
Oui, effectivement. La Air... je l'ai eu, celle-là.
Ouais.
Je l'ai eu, la 360 que j'avais vendue. Parce que. Je trouvais justement que la semelle était beaucoup trop imposante et très bizarre. Je suis en train de me rendre compte que j'avais des trucs que j'ai revendus, j'avais complètement oublié. mais la 360, elle était, je trouve que la semelle était un peu trop ambitieuse.
Ouais, moi, pour vous répondre, pour la Vapor Max, ouais, c'est presque une dernière évolution de l'air. Ouais, je vois très bien. Moi, ce que je kiffe dans la Vapor Max, c'est cette sensation un peu crampon que j'avais. Avec des, tu sentais vraiment limite ça a peut-être pu influencer aussi la Mind qui font, parce que je ressentais ces points de pression pile aux endroits de la bulle d'air. Et très franchement, j'ai passé beaucoup d'été, j'embrasse Jérôme Adès, j'ai porté énormément en Toscane, à la Villa Elena, parce que le upper, il était en fly knit ultra léger, et franchement, j'ai adoré le confort. J'ai adoré le confort. Peut-être que la silhouette a un peu vieilli.
Ouais.
Ou mal vieilli, tu vois.
Moi, je crois que c'est... Moi j'avais bien aimé la com, comme je le répète, mais je crois que c'était le prix qui était quand même abusé, non ? Je suis pas allé dessus parce que je pense qu'il y avait le prix.
On était à 200 ou 220 balles.
La com, elle était top.
Ouais, Nico, Nico nous a poussé une paire là, dans notre discussion. 720, c'est vrai que j'avais oublié, c'est la Nike Air Max 720. Et pareil.
Faut voir le visu, je crois que c'était ça, non ?
Immonde. Enfin, immonde, c'est une question de goût, évidemment.
C'est un peu ça dont je parlais, ouais.
Ça pique, quoi. Donc voilà.
Ouais, première version, ils avaient fait le talon comme ça.
Exactement.
Et après, ils avaient mis tout à l'avant. Sneakopat, on t'embrasse très fort et nos auditeurs pourront le retrouver sans doute samedi prochain avec son regard acéré. Donc, premier coup de com' hein, pour Tinker Hatfield. Je pense que là, tu vois, ça l'a déjà mis assez en haut de ce... des talents des designers de chez Nike, parce qu'avant lui finalement on n'en parle pas tant. Et en plus, quand je vais corréler ça à Rob Strasser, il était encore là-bas hein, en 87, oui. Et Peter Moore, Rob Strasser, fou du marketing, je le vois bien pousser ça, contrairement à des intellos du design qui vont plutôt dire non mais je suis pas sûr que ça tienne, va falloir le camoufler, c'est un peu trop disruptif que ça l'était avant. Et vraiment grosse révolution. La deuxième, c'est quoi ? Eh ben, je pense que on n'en est pas loin. Je pense quand même que Tinker Hatfield est l'homme qui a sauvé l'empire Nike au travers de Jordan. Et ça, je trouve vraiment que c'est un vrai plus. Vous voulez qu'on raconte un petit peu ?
Tu peux.
Ouais, allez, je m'y colle. En fait, Jordan signe un peu à contre-cœur en 1985 avec Nike. C'est là que Peter Moore lui fabrique sa première Jordan, à la base une Airship, puis la Jordan 1. On passe sur la Jordan 2, qui n'est pas encore designée par Tinker Hatfield, qui reprend un profil un petit peu italien, cuir premium, etc. Mais on est sur une paire assez carrée. Et ben justement, en 88, Jordan est quand même à deux doigts un peu de quitter Nike. Et c'est Peter Moore qui a fait la Jordan 1 et la 2. Peter Moore est parti en 88, sans doute avec Rob Strasser, pour aller se rapprocher de la marque. Enfin, il crée leur studio, puis après il se rapproche d'Adidas, la marque aux trois bandes. Mais là, qu'est-ce qui va convaincre Jordan ? Eh ben, c'est un petit peu l'idée, le coup de génie que Tinker et Nike a. C'est que... En fait, ils vont se rencontrer, ils vont faire des meetings, et Tinker Hatfield va essayer de faire sortir l'envie de Jordan dans une basket qu'il aurait envie de porter. Le brief, c'est quoi ? Ben, il comprend très vite qu'il a envie d'une chaussure qui soit plus souple, et c'est pas faux, c'est quasiment l'arrivée en force de la mid d'une basket un petit peu moins montante. Et le premier design de Tinker Hatfield chez Jordan, c'est celle qu'on porte avec Krish aujourd'hui, c'est la Jordan 3, dans lequel il introduit cet elephant print qui était vraiment une révolution. C'est ce qu'on voit dans la paire, c'est vraiment la dynamique de la paire, donc au niveau du talon, au niveau de ce qui entoure les orteils, on a de l'elephant print. Et pour la première fois, il dessine ce logo d'une Jumpman. Je crois qu'il est inspiré d'une photo, hein, d'un dunk de Michael Jordan. Et aujourd'hui, en fait, tu dis Jordan, tu penses automatiquement à la automatiquement au Jumpman. Ouais, moi ça me... J'aurais bien voulu qu'il y ait Manu, tu vois, parce que la Jordan 3, il se passe vraiment un truc. Je trouve qu'on rajoute des lettres de noblesse à la basket, parce que, à mon avis, c'est dans le brief, hein, de Michael Jordan, c'est qu'il veut une paire pour pouvoir la porter aussi en dehors des parquets. Et c'est tout à fait le cas. Et on parlera aussi de ces grandes innovations jusqu'à la Jordan 11, où le brief était vraiment autour d'une basket hyper habillée.
Bah, c'est la particularité de Jordan, en fait, quand tu réfléchis un petit peu. Il n'y a pas toutes les Jordan, mais il y a quand même beaucoup de Jordan qui sont très élégantes. Tu vois, la 3, la 4 peut-être un peu moins. Ensuite, tu as des modèles comme la 11, la 12 qui sont très élégantes. 7, enfin 6, 8 aussi, avec un truc assez, un peu longiligne, assez fin, tu vois. Ouais. Donc je pense que l'élégant chez Jordan, c'est un truc qui a toujours, toujours fonctionné, quoi. Donc voilà.
Ouais, et en plus, ce que je trouve très très fort, on te donne la parole, hein, Jaime, si tu veux réagir, c'est que c'est le même designer, il y a une vraie évolution dans le design de la basket. Tu compares une Jordan 4, une 5, une 6, mais t'es plus du tout dans la même inspiration.
Ouais, je
autant
pense
6,
que
7, 8,
ouais,
tu retrouves ce côté arrondi à l'avant, proche des orteils.
Mais je pense que c'est ce qui fait la force aussi d'un designer et d'un mec qui a la vision comme ça, qui sait se réinventer d'une année sur l'autre, qui sait probablement aussi écouter les désirs de Michael Jordan, même si à un moment ou à un autre, je pense que même Jordan lui-même, en fait, a été restreint par son imagination, tu vois. C'est-à-dire que quand t'es sportif, en fait, t'arrives pas forcément à te projeter sur le design de ce que tu voudrais porter. Mais Tinker Rafid, lui, a fait le job. Et je pense que c'est finalement son background aussi, tu vois. Il vient... il devait designer finalement des bâtiments, tu vois, à la base. Et forcément, quand tu as ce truc de designer du bâtiment, bah, tu vas pas faire tout le temps le même bâtiment, quoi. Tu es obligé de te projeter. Et je pense que c'est ça qui l'a aidé, à mon avis, dans sa démarche.
Ouais, et je rebondis sur ce que tu dis, parce que typiquement, je pense que le plus du regard d'un mec comme ça, quand tu fais du bâtiment, bah, tu fais pas juste un truc joli. Ça doit d'abord être fonctionnel. Ouais. Tu dois pouvoir faire passer des conduites d'aération, l'électricité, etc. Et donc, imaginer la technologie, le design, l'esthétisme et en faire un tout, et ben là-dessus, franchement, ça a cartonné. Ça a cartonné. Donc, on a parlé de ce coup de génie. Il a sauvé l'Empire Jordan à partir de 1988. Et là, je peux revenir sur quelques innovations et designs iconiques qu'a créé Tinker. Mais Jaime, je t'ai pas donné la parole. Tu voulais réagir sur Jordan et les designs de Tinker sur la Jordan 3 et les autres?
Non, pas très légitime là-dessus. Jordan, j'ai pas trop suivi, mais ouais, j'adorais ce qu'il a fait pour la Jordan 4. C'est la Jordan 1, c'est pas lui, mais bon, voilà, c'est mes Jordan préférés, la Jordan 1 et la 4. Et ouais, j'aime bien ce qu'il a fait. Et l'éléphant de print de la 3.
Tu préfères la 4 à la 3
En Jordan, je préfère la 4 à la 3, ouais.
Mais t'as acheté la Rare Air 3, mais pas la Rare Air 4.
Alors, j'ai acheté la Rare Air parce qu'elle était en promo et je voulais vraiment tester Jordan 3. Manu, voilà, il nous a un peu...
matrixé.
Tellement matrixé.
Il a raison.
Donc voilà, dans la 4, parce que je sais pas, la bread, elle est incroyable. Je sais pas, il y a des photos de Jordan avec cette paire qui m'ont marqué. Donc il y a aussi la off-white, bref. Il y a plein de trucs qui m'ont marqué avec cette 4. Et voilà, c'est mon modèle préféré de Jordan. Donc ouais, bravo Tinker, hein, c'est vraiment un génie par rapport à tout ce qu'il a fait. Et j'ai une question peut-être piège, je sais pas, mais il a fait des modèles ACG aussi? Ou pas du tout chez Nike? Non, je crois pas, il a pas touché à cette gamme-là.
Moi, je t'aurais dit l'inverse, qu'il a dû toucher à tout. Mais j'en vois pas des estampillés comme non, ça.
Il était pas, ok.
Ouais, t'as fait une recherche?
Non,
non, on va vérifier, ou si Nico il nous écoute, il nous envoie un petit peu l'info. Et les innovations et les designs iconiques, ouais, celle-là, je trouve qu'elle a perdu un petit peu de sa... Enfin, je trouve qu'à une époque, elle avait le vent en poupe. Moi, j'adore le confort. J'adore, et ça a été aussi réutilisé hein, dans toutes les baskets de B-Ball. C'est la création de URH, en français URH, pour si on y met un accent américain. Donc là, c'est typiquement inspiré par le chausson un petit peu de ski nautique. On a quasiment une paire avec un upper en néoprène et des parties en plastique qui vont permettre de bien tenir le talon. Je sais plus si c'était entre 2012 et 2014, c'était un peu avant la création de l'asso. Je me rappelle que j'avais fait, je crois, 3 footlockers pour trouver une triple black de cette URH. Où moi, très franchement, le matériel de la semelle, c'était pour moi l'une des plus confortables. T'es sur un nuage, c'est pour moi très proche du Boost. Et design fabuleux de ça, tu arraches l'eau. Après, il y a eu la version avec le scratch pour le b-ball. Et là-dessus, ben, tu vois, encore une innovation. Presque, enfin, le néoprène pour le maintien du pied, je trouve que c'est quasiment une innovation un petit peu technique qu'on rend visible directement. Alors, je dis néoprène, c'est vrai que dans la Jordan 6, la Jordan 7 aussi, il y a aussi un petit chausson avec des parties néoprène, hein, justement au niveau de la languette. J'adore ce design de la URH et c'est vrai que je la trouve de pas tant que ça portée, alors qu'elle pourrait tout à fait être dans la tendance. C'est pas une grosse basket, c'est hyper confo, c'est très running et je trouve qu'elle a perdu un peu le vent en poupe. Vous étiez client de la URH?
Moi oui, enfin client. J'ai toujours trouvé qu'elle avait un truc très particulier dans le design, dans la façon dont elle est construite. Maintenant, je l'avais trouvé par rapport à moi et mon pied et mes petites jambes et mon petit gabarit, peut-être un peu trop fat.
Ouais, la semelle est épaisse.
Tu vois, la semelle est épaisse et du coup, c'est pas un modèle qui m'allait, mais à chaque fois que je l'ai vu porter, je me suis toujours dit qu'elle avait un truc.
Ah, moi, j'adore URH. Ouais. T'as déjà essayé une URH, Jaime?
Oui. J'ai une seule fois, c'était à Oppenheim, dans un outlet, et c'est vrai que tu es bien dedans. Ouais, c'est un modèle qui est assez sympa, j'ai jamais eu la chance d'en porter au quotidien, mais elle est cool.
Ouais, bah je me suis donné envie d'en porter une demain. Voilà, quand je trouve mes inspirations. J'espère qu'il pleut pas trop, mais ouais, URH, carton. Et puis tu l'as un peu cité, c'est 1995. Ça fait pour moi partie ouais, des top 4, top 3 des Jordan. C'est la Jordan 11, où c'est la première fois où on essaye, c'est ce que dans les textes, on parle de performance et de haute couture dans une chaussure qui, dans le brief, devait pouvoir être portée avec un costume. Et c'est la première fois qu'on voit du cuir verni sur une paire. Je crois que c'est un des modèles Jordan préférés de Krish. Moi, j'adore ce design. À porter, je vous cacherai pas que je trouve que c'est un peu rigide et dur à plier. C'est aussi la première fois qu'on a une partie intermédiaire de la semelle qui est en carbone. Et c'est un design iconique. T'as la Concorde noire et blanche. Il y a la Space Jam qui a aussi cartonné, qui ressort en hiver prochain.
Gamma Blue.
Et la Gamma Blue, dont Krish avait une des premières éditions et qui a été rééditée en décembre dernier. Ouais, la Jordan 11, c'est un mythe, c'est un Graal.
Ouais, et puis ce qui est fou, c'est que en vrai, tu alignes toutes les Jordan, la Jordan 11. C'est vraiment le modèle qui a rien, mais absolument rien à voir avec toutes les autres. C'est ouais. Un truc de fou, quoi.
Et je trouve qu'elle se démode pas.
Non, elle se démode pas. D'ailleurs, Manu l'avait ce week-end là. On est parti ensemble.
Il est parti à Barse. Ouais, mais il faisait pas beau. Parce que quand il fait chaud, tu peux pas porter ça. Quoi.
Non, mais il est pas parti. Après, c'est un autre.
Bon,
débat.
Manu est parti avec six baskets.
Non, même pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, la paire, elle est tellement propre. Tu vois, et que tu peux la mettre avec tellement de choses, avec tu vois, un baggy, un pantalon, un pince, un short. Enfin, tu vois, il y a aucune fausse note sur cette paire. Si, il y en a une, c'est le confort. Mais sinon, esthétiquement, pour moi, c'est zéro défaut.
Et tu vois aussi l'évolution entre la Jordan 1 et cette 11, l'évolution technologique, technique, qui a été apportée sur chaque paire avec chaque année un petit truc en
exact.
Plus. Ouais. Très réussi. Et enfin, on va devoir finir là-dessus, hein, et peut-être que vous me citerez juste quelle est votre paire iconique de chez Tinker. C'est la Nike Mag, qui pour la première fois en fait a été lancée, designée, créée pour Back to the Future, donc retour vers le futur. Avec l'acteur
Marty McFly, c'est ouais. L'acteur,
comment il s'appelle l'acteur
Fox, non? Attends.
Oui, Michael G. Fox. Magnifique. Pour l'anecdote, ceux qui n'ont jamais vu le film ou qui veulent le voir ou pas percer de mystère, à l'époque, il n'y avait pas de laçage automatique, mais on voit Marty McFly chausser cette chaussure. Il est dans il a été téléporté avec la DeLorean
dans le
futur.
Le deuxième épisode du film.
Ouais, c'est dans le deuxième film. Mais en fait, derrière, c'est un montage et c'est quelqu'un qui serre le lacet. Avec le petit bruit et tout ça. Il n'y a que en 2011 où on a le vrai lassage automatique, et c'est là qu'elle a été vendue aux enchères pour la fondation de Michael J. Fox. Et cette technologie appelée IARL a été réutilisée dans l'Adapt B-Ball, où là, avec même ton application téléphonique, tu allais pouvoir serrer ta chaussure. C'est une paire mythique, elle se revendait dans les 30 000 euros avec une boîte spécifique, orange, hyper futuriste. Et ça, souvent tout le monde dit la Air Mag, sauf que c'est la Nike Mag, il n'y avait pas d'air dedans. Paire mythique full grease. Et ça reste un Graal pour pas mal de collectionneurs de basket. Pour moi, c'est un peu trop futuriste, cette mag, etc. Je vois moins l'application de tous les jours. Mais elle reste dans le mythe d'énormément quand il y a des gens qui ne connaissent pas trop la basket et qui m'en citent une. Ah, tu l'as ? T'as la celle de Marty McFly ? Non, peut-être j'aimerais bien. Mais voilà, elle apparaît dans pas mal l'inconscient de gens.
C'est la seule paire en fausse que je pourrais acheter. Juste pour l'avoir chez moi exposé.
Alors, il y avait une vraie fausse qui a été éditée. Je ne sais pas si tu as suivi ça. En fait, Retour pour le futur, je crois que c'est une...
Vers le futur.
Pardon. Pardon, Abby. Heureusement que t'es viendra. Je crois que c'est un film Universal. Et Universal avait eu le droit de sortir un modèle mag, mais qui n'avait pas de techno dedans, etc. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pas un fake.
Un takedown.
Réplica.
Ouais, oui, c'est réplica. C'est ça. C'est réplica comme les chapeaux, Panama. Tout le monde a le droit aujourd'hui de faire un Panama, mais on appelle un réplique parce que c'est pas la marque Panama, mais c'est un réplique et c'est une réplica très, très forte. Et ben voilà. Pour conclure, je peux vous demander quelle est votre Jordan quelle est la basket de Tinker Hatfield que vous préférez ?
Jordan 11.
Très facile. Air Max 1.
La Jordan 14.
Oh là là,
je rigole.
T'as préparé ta blague.
Non, pour décrire la 14, c'est pas beau.
On n'a pas le temps en plus.
En une sorte de mot, c'est quelque chose de noir avec une sorte de cuir à la place du lacet. Avec un petit jumpman.
On n'a pas le temps.
C'est bien le fils de son père.
Allez, j'hésite entre la 3 que j'ai eue quand j'étais petit, qui est vraiment sublime, et la 4. Qui est le modèle que je porte actuellement, mais dans un autre coloris. Mais en vrai, je ne saurais pas choisir les deux. Hein.
Allez, ça me va. Elles sont proches quand même. Et moi, comme beaucoup d'auditeurs fidèles le savent, c'est la Jordan 6 Colorway Black Infrared.
Que tu as tous les exemplaires depuis qu'ils sont sortis.
Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est ça la collection. Et ben voilà, on était ravis d'être avec vous pour ce mardi. On se retrouve pas mardi prochain, mais on se retrouve le samedi 16 mai à partir de 15h sur l'antenne d'RBS 91.9 avec une autre émission spéciale pour nos 10 ans. On sait qu'on commence à 15h, on verra à quelle heure on finit, mais si vous êtes dans le parage, vous pouvez nous voir dans la vitrine, vous pouvez venir vous faire un check. Il y aura peut-être même Jaime qui viendra vous interviewer avec le micro HF à l'extérieur. On sera ravis de vous croiser. En attendant, on va laisser la place à Planet Racing. On croise les doigts pour être en finale à Leipzig si jamais. Ça fera bien plaisir. Allez Racing, allez les Bleus, place à Planet Racing, c'était Sneak on Air. Rendez-vous même heure, même endroit, ou presque, le samedi prochain. C'était Sneakers Empire
dans tes oreilles.
Yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah. I'm loving it, girl, I swear to God, they'll pay for an ass like yours. If it wasn't there, yeah, yeah. And I'm rubbing it, oh, oh. You wanna know if we can make this confidential? Between me and you, we already did it. Between me and you, we already did it. Remember when I said I'm trying to find something to get into? I was talking about you, we already did it. I was talking about you, yeah, 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 yeah. I can't lie, when I watch my baby, her lip gloss pop just came from the spa, hair done too, but girl, that was 4 shots ago.